À Canalem, on aime l'été.
Vendredi 2 août, aime l'été parce qu'on aime aussi les vacances de la construction qui se terminent dernier vendredi sans trafic. Au centre-ville, profitez-en. Bonjour tout le monde, Emmanuel Robitaille.
Sur cette note joyeuse et optimiste, bienvenue à Aime l'été.
Salut Kevin Breton qui est à côté de moi, comment vas-tu?
On va pas faire la circulation aujourd'hui à Aime l'été.
Non, j'ai une question une question un peu candide, peut-être un peu naïve, peut-être stupide, je le sais pas, mais j'ai de la difficulté à comprendre l'absence de trafic pendant les vacances de la construction, comme si les gens qui travaillent dans le domaine de la construction étaient responsables du trafic. Tu sais, je veux dire, c'est les vacances de la construction, c'est pas tout le monde qui prennent leurs vacances ces deux semaines-là.
Mais il y a beaucoup de gens qui s'agglomèrent autour des vacances de la construction. Il y a beaucoup de gens qui prennent leurs vacances en même temps que la vacance de construction. C'est comme devenu une genre d'habitude sociale.
OK.
Fait que c'est pour ça que c'est pas eux qui ont plus de chars que la majorité des gens. C'est nous qui se sont comme agglomérés autour de cette habitude.
Donc, les gens de la construction seraient des influenceurs.
C'est oui, voilà. C'est très bien résumé.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a?
Ben aujourd'hui, tu vas nous dire si on peut mentir à son psy, pourquoi on pourrait le faire? Et c'est quoi les conséquences, j'imagine, si on le fait? Ça sera en première partie d'émission aujourd'hui.
Effectivement, le dévoilement de la programmation du Festival Fierté Montréal est déjà fait. On va avoir des gens en studio pour nous en parler davantage.
Tout en festival, cette émission-là, parce qu'on va également parler du Festival de Lévis dans le coin de Québec.
Effectivement, c'est le premier vendredi, des premiers vendredis. On va en savoir plus plus tard avec Guy Vincent Mello, président et cofondateur de cette initiative-là.
Ouais, et certainement que ça va vous mettre l'eau à la bouche sur l'heure du dîner, ce sujet-là, parce qu'on va parler de bouffe. Et il y aura également Maxime Despomerleau pour sa chronique culture. Il va notamment être question du Rockfest.
Et Max doit penser à nous autres. Kevin, tu nous expliques comment survivre en fauteuil roulant à Oshiaga et au festival parce qu'il y en a une couple en bon français qui battent leur plein actuellement. Bienvenue à Aime l'été, tout le monde.
Ton psy te l'a dit, c'est juste la fatigue.
La machine est fatiguée.
Mais il faut pas lâcher, mon vieux. J'ai pour toi ce qu'il y a de mieux. Une petite pilule pour te remonter. Espoir que tu retournes travailler. Depuis ce temps, les gens sont fatigués. Tout le monde court après le temps. Puis tout le monde est stressé tout le temps.
Thank you.
C'est un vieux succès, ça. C'est à quel âge, cette chanson-là?
Et j'ai aucune idée, mais c'est dans le
première... Dans les 90, non?
Moi, j'aurais dit début année 2000.
À début année 2000, ouais, peut-être.
Genre 2003, ouais. 4, peux-tu nous vérifier ça, Maurice? 5, moi, juste par curiosité.
Ouais, mais ça doit être dans ces eaux-là. Je me rappelle très bien écouter ça dans le char de mon père sur la bande FM pendant qu'on conduisait aller chercher une crème molle. Le psy, hein, le titre de la chanson, qui nous emmène à ta chronique aujourd'hui. Mentir à son psy, Emmanuel. Pourquoi?
D'après toi, est-ce que les gens mentent à leur psy?
Moi, je suis ambigu. Je suis vraiment intéressé à entendre cette chronique-là parce qu'en voyant ton sujet de chronique, je me suis posé la question alors que Maurice, lui, a la réponse.
2007.
Ah, bon, t'es plus proche que
moi. Première moitié des années 2000, c'est ce que j'avais en tête. Bon,
fait que, ouais, c'est intriguant. Mentir à son psy, est-ce que c'est commun?
Est-ce que c'est commun? C'est ce qu'on va regarder, entre autres, dans les prochaines minutes. C'est la psychologue Bella DePolo qui s'est penchée sur la question, littéralement, sur la psychologie du mensonge sur leur détection. Et ici, dans le contexte principalement de la thérapie. Il y a un livre également, Secrets and Lies in Psychotherapy, de Barry A. Farber, Math Blanchard et Melanie Love, qui expose 1345 clients qui décrivent les mensonges racontés à leur thérapeute et aussi les sujets qu'ils évitent. Parce que c'est un mensonge par omission où on contourne la vérité, ça existe également, et c'est inclus dans les mensonges. Donc, on a deux pôles. On a la psychologue Bella DePolo, et il y a dans ce livre, Secrets and Lies in Psychotherapy, où on démontre un peu les phénomènes de mensonges qui se passent en psychothérapie. Et je te pose la question, parce que, bon, dans ce livre-là, on présentait 58 sujets aux gens, et on leur demandait de cocher les sujets sur lesquels ils avaient déjà menti. Selon toi, combien de clients ont menti, en pourcentage bien sûr, combien de clients ont menti sur au moins un sujet sur 58?
Puis les sujets, j'imagine que ça peut aller de comme l'appréciation personnelle à l'infidélité, à tout ça. Ben, c'est pas assez faible mentir. Je veux dire, des fois, on le fait même inconsciemment. Fait que je me dirais 70%.
C'est 100% des gens.
100%?
100% des gens ont menti au moins sur un sujet présenté sur les 58 qui étaient dans cette étude, entre guillemets, versus 93% que Bella DePolo elle-même, la chercheuse dont j'ai parlé au départ, qui fait pas partie du livre, elle avait trouvé. Donc, c'est quand même un énorme pourcentage qui est présent. Combien, selon toi, disent avoir menti sur 20 sujets et plus qui étaient présents dans la liste sur les 58?
On passerait de 100% à peut-être 85%?
Non. Là, on a un 6%, sauf que 20 sujets, tu sais, quand c'est rendu que tu mens sur le nom de ton chien, je veux dire 20 sujets.
Ouais.
Tu sais, où est-ce qu'on... Moi, je cocherais mensonge, menteur pathologique parce que ça existe, tu sais. Donc, rendu là...
On se demande, en fait, si ça vaut la peine de se payer les services d'un psychologue.
Parce que le psychologue est totalement dépendant, en fait, du contenu qui est livré dans le bureau à ce moment-là. Donc, s'il y a omission, mensonge, demi-vérité, on va pas loin.
On lui donne pas les bons outils de travail, en fait.
Exactement. Et les sujets sur lesquels... Bon, premièrement, il y a les sujets sur lesquels on ment, mais selon toi, Kevin, le sujet le plus évité, qu'on évite de parler avec notre psychothérapeute, selon toi, le numéro un?
L'argent?
Non, c'est pas ça. Maurice, en régie, aurais-tu une idée?
La sexualité.
Bingo! Effectivement, la vie sexuelle, et on parle là, ça inclut désir sexuel, les détails de la vie sexuelle, les fantasmes aussi. Les gens évitent la question, beaucoup étant numéro un, là, sans équivoque. Maintenant, il y a les sujets sur lesquels on ment. Et ça, c'est un peu plus inquiétant dans une certaine mesure où, en première position, 56% des gens, la moitié du monde, qui s'assise en thérapie, devant le thérapeute, le psychologue, le travailleur social, mentent sur comment ils se sentent vraiment. À 39%, la sévérité des symptômes qu'ils ressentent, ils les minimisent. Donc, on n'est pas dans la vérité quant à comment on se sent vraiment, et on minimise beaucoup nos problèmes, nos symptômes, nos symptômes dépressifs, anxieux, peu importe. Et bien sûr, les pensées suicidaires, les insécurités et les doutes qu'on entretient sur nous-mêmes en troisième position à 31%. Parce qu'on peut mentir à notre psychologue si on ment sur comment on va vraiment, si on ment sur la sévérité de nos symptômes. C'est logique qu'on mente également sur la présence ou non et l'importance, la gravité des pensées suicidaires qu'on peut entretenir ou pas. 29 % d'entre eux mentent. Il y a un groupe de sujets qui s'y retrouvent dans le 29 %, mais ça, c'est 30 %. Ça, c'est quand même une personne sur 33,3 Une personne sur 3 environ. Mmh. Là. C'est beaucoup. Là. 29 % d'entre eux mentent en disant aimer les interventions de leur thérapeute. Donc, un peu pour plaire, en prétendant que la thérapie est plus efficace qu'elle ne l'est vraiment, sur pourquoi elles étaient en retard ou ont manqué une rencontre, et sur l'utilisation de drogue et d'alcool dans le domaine ou dans le spectre de la vingtaine de pourcents. À 27 % les gens se disent plus confiants, voire plus espoir qu'ils en ont réellement.
Ah ouais.
26 % mentent sur les choses qu'ils ont faites et disent regretter, et mentent également sur les devoirs qu'ils devaient faire à la maison pour la thérapie, parce qu'en tant que, des fois, ouais. on a surtout en cognitivo-comportemental, donc faire des essais là, ouais. Pour les phobies, troubles anxieux, agoraphobie, exposition, etc. Et l'histoire sexuelle et les habitudes alimentaires se trouvent à 22 et 21 % respectivement. Il y a un pourcentage intéressant. 15 % des clients disent savoir ce qu'ils veulent pour eux-mêmes alors que c'est faux. Ça, c'est plus qu'une personne sur 10 qui disent savoir vouloir ce qu'ils veulent pour eux, mais que c'est pas vrai. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent, ce qu'ils viennent chercher ou même ouais. Ce qu'ils recherchent.
Est-ce que c'est un mensonge? C'est plus comme un manque de connaissance de soi-même ou...
Mais moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui, moi, je trouve que ton intervention est extrêmement pertinente parce qu'à un moment donné, quand tu te mets à toi-même, c'est un niveau autre de mensonge.
C'est inconscient.
Exactement. Et il y a Éric Goulard qui est un pro de la détection des mensonges et il a écrit plusieurs ouvrages par rapport à ça. Et il propose un top 5 selon un article du Huffington Post. En fait, c'est le Huffington Post qui a choisi ce top 5-là basé sur le travail d'Éric Goulard qui nous permet de déceler les mensonges chez nos interlocuteurs. Et ça, tout le monde peut les utiliser, pas besoin d'être en psychothérapie pour le faire. Première des choses, servir à boire à notre interlocuteur. Comment ça me permet de détecter un mensonge, ouais. Tu me diras. On ne demande pas s'il veut quelque chose à boire. On dépose vraiment, littéralement, un verre d'eau, de l'eau, devant lui. L'eau, c'est communément identifié comme une substance désaltérante et en cas de changement soudain émotionnel, on peut le voir boire avant de répondre ou saisir le verre ou poser son regard sur lui parce que le verre d'eau va servir d'indicateur de stress. Et il y a une légère hausse de la température du corps quand on ment, qui pourrait assécher la bouche également, ce qui donnerait envie de boire. Donc ça, c'est une des façons de faire. C'est intéressant.
Très intéressant. Je dois t'essayer ça à l'avenir. Tu donnes des idées.
Chaque nouvelle personne que tu rencontres, elle va te prendre un verre d'eau. Non, non, tu lui demandes pas. Elle va te prendre un verre d'eau. Deuxième façon de savoir si notre interlocuteur nous ment, comment le déceler, lui demander de raconter son histoire à l'envers. Parce qu'une personne qui crée un mensonge, il a souvent tendance à respecter une certaine logique, une certaine séquence et à organiser les éléments afin d'être crédible. Et il y a un nombre de menteurs qui oublient d'imaginer l'histoire de l'autre sens. C'est une personne qui a vécu quelque chose réellement, peut te le compter dans tous les sens en partant du milieu, il n'oubliera jamais. Moi, je pense que l'humain n'est pas fait pour mentir, je vais le dire. On n'est pas fait pour mentir. On a de la misère à se rappeler de la vérité. Sérieux. Engageons-nous pas dans un mensonge, on va être pourris. Et non, mais c'est vrai. Par contre, une histoire inventée prend beaucoup, beaucoup d'efforts et c'est souvent beaucoup plus difficile à gérer, surtout si celui qui l'écoute en perturbe son déroulement. Donc, à noter que la fatigue peut aussi rendre la tâche compliquée, même si la personne dit la vérité. Donc, attention aux faux positifs. Attention de dire à quelqu'un, tu mens, mais mais c'est pas vrai. Ouais. Faut regarder dans quel état émotionnel de santé physique la personne se retrouve. Troisième point, lui demander de faire une action simple. Le cerveau humain est capable de gérer des millions de stimuli sensoriels simultanément, mais la réalisation d'une tâche simple peut se révéler compliquée si la personne doit se concentrer sur une autre activité. Donc, si on est en train de raconter un mensonge, ça prend beaucoup plus d'efforts que de simplement discuter d'une réalité ou d'une vérité. Donc, demander à la personne d'effectuer une tâche manuelle aussi simple que mettre du papier dans l'imprimante, de nous servir un verre d'eau, de sortir un gâteau du four, de prendre un Scott Towel. Produire un mensonge, ça demande un niveau de concentration qui peut perturber l'action. Donc, si l'action est faite avant ou la personne arrête de parler, ou il peut y avoir une difficulté, à moins qu'il y ait un trouble de déficit de l'attention clair, là, on se comprend. Là.
OK.
Mais ça peut être une façon de voir le niveau de concentration que le discours prend la personne. En quatrième position, et je me dépêche, utiliser une question en deux temps. Il faut poser la question, puis revenez-y une heure plus tard, le lendemain, une semaine plus tard, et reposer certaines des questions que vous aviez pendant cet échange-là. Laissez un peu de temps et revenez sur le sujet plus tard. Ça se pourrait qu'il y ait certains éléments qui soient oubliés, occultés, modifiés, et là, ça peut nous indiquer qu'il y avait un mensonge dans ce qui a été raconté au préalable, et finalement se concentrer sur les détails, parce que commettre des erreurs dans nos souvenirs, c'est un phénomène qui est extrêmement connu, ça s'appelle les faux souvenirs, et ça, tout le monde le fait. On remplit des trous de ce qu'on se rappelle pas, fait qu'on invente des affaires, même si c'est arrivé réellement.
On est convaincu d'avoir vécu de coin.
Fait qu'il faut faire attention à ça, mais les détails peuvent être très intéressants et toujours établir un climat de confiance avec la personne, parce que si la personne est en état de stress tout court, parce que vous êtes en train d'y mettre une lampe d'en face, comme dans un interrogatoire de police, là, on est dans un contexte où ces choses-là peuvent pas fonctionner.
Ouais, on n'acceptera pas les vérités, là.
Mais si vous êtes intéressé sur le sujet, tous les livres d'Éric Goulard sont pour vous. Et la série télé Lie to Me est également excellente pour la détection de mensonges. Mais on va avoir déjà un peu plus de capacité à le faire. Qui sait, peut-être aurons-nous plus de vérité.
Un verre d'eau. Une autre raison de bien s'hydrater pendant la canicule. Merci, Emmanuel.
Plaisir.
On en parlait, Manu, l'été est bien entamé. On parlait de festivals tantôt qui commençaient, qui battent leur plein en ce moment. Il y en a encore plusieurs à venir.
J'ai accordé le mot, l'expression « bat son plein », « battre son plein ».
Battre son plein, oui.
Les festivals battent leur plein.
Voilà. Voilà, syntaxe parfaite, 10 sur 10, Emmanuel. Il nous reste un festival qui est devenu un festival iconique à Montréal qui a lieu chaque année, celui de la fierté. Ça va avoir lieu donc à Montréal, je le disais, du 8 août au 20 août prochain. Et pour parler de la programmation et de toutes les activités qui attendent les festivaliers et les Montréalais lors de cette journée-là, on a le grand plaisir de recevoir en studio ici le directeur de la programmation et ressources humaines chez Fierté Montréal, Jean-François Guévremont. Salut Jean-François.
Bonjour.
On est bien content de t'avoir ici avec nous. Moi, je savais pas que c'était le plus grand rassemblement au Canada francophone, le plus grand rassemblement francophone pour la communauté LGBT qui avait lieu à Montréal.
Oui, dans le monde, en fait, puis au niveau canadien, on est la plus grande fierté aussi.
Ça, je le savais pas. Puis c'est quand même, d'année en année, on a l'impression que ça prend de l'ampleur. Est-ce que vous ressentez la même chose sur le terrain? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'achalandage?
Oui, oui, les chiffres parlent beaucoup également. Là, depuis 2007, on est en croissance constante et ça ne fait qu'augmenter et augmenter année après année.
Mais moi, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais mon Dieu, tu dois être fier en tant que directeur. Hein,
je suis très fier, nous le sommes tous. Voilà.
Ouais, mais non, mais c'est gros, là. Le plus au Canada, au monde, on parle internationalement, là.
Ouais, en fait, il faut vraiment vivre le festival pour comprendre pourquoi qu'on dit ça. Là. Des fois, on pense, ah non, ça doit être cette fierté-là à telle destination exotique ou tout ça. Mais une fois qu'on a vraiment les pieds dedans, on voit à quel point il y a des marées de gens qui participent à nos 250 événements. C'est quelque chose, c'est gros.
C'est près de 2,7 millions de personnes qui viennent de l'international ou qu'ici à Montréal, qui viennent participer aux activités, c'est gigantesque. Puis juste sur le plan touristique, c'est des retombées exceptionnelles pour Montréal aussi.
Oui, effectivement, au niveau, en fait, oui, au niveau de Montréal, mais je pense que il y a aussi l'aspect francophone, mais ouais. Il y a l'aspect de la diversité en général. Là. Donc, c'est vraiment des retombées économiques, oui, pour la ville, mais ce qui est le fun, c'est qu'on teinte un peu Montréal là, de nos belles couleurs arc-en-ciel.
Ouais. Maintenant, pour ce qui est de la programmation, à savoir qu'est-ce qui a lieu pendant ces 11 journées-là, on sait qu'il y a Ariane Moffat qui sera en tête d'affiche. Quoi d'autre qui attend les festivaliers?
Mais en fait, on a 250 événements. Ce que les gens connaissent le plus, c'est le défilé. Cette année, c'est le 18 août. On a la journée communautaire le 17 août.
C'est ta fête.
Bon, tu viendras pour le défilé.
Est-ce que vous pourriez me faire un char?
Char allégorique?
Non, mais
on est un peu hors délai, là, quand
c'est
même.
C'est vrai. Ben, en tout cas, c'était une semi-fausseté. Pour vrai, j'aurais trippé. Mais c'est pas grave.
Sinon, on a d'autres événements. Okay, même le 18
parfait.
Aussi,
c'est
on va
bon.
T'arranger une journée. On a 20 spectacles extérieurs et intérieurs qui sont gratuits. Ce qui est intéressant au niveau de la programmation, c'est qu'on touche à peu près à tout. On a des pièces de théâtre, on a des spectacles d'humour, on a des ateliers, on a une veillée revendicatrice le mardi le 13 qui s'appelle Stonewall 50 parce que c'est les 50 ans de Stonewall cette
ouais.
année. Alors, on met de l'avant ce combat-là qu'on porte depuis très longtemps, qui n'est pas toujours... c'est pas terminé là, dans tous les pays. Là. On a plus de 70 pays dans le monde où est-ce qu'on peut pas tenir une telle célébration. Alors ici, on le fait fièrement, puis on le fait parce qu'il y a encore le besoin de le faire.
C'est en noir l'événement, les émeutes à New York, en fait, qui avaient lieu, qui ont marqué, en fait, là, une grande étape dans le mouvement des droits des personnes homosexuelles et LGBT. Et vous t'en as glissé un mot, Jean-François. En fait, vous travaillez sur deux fronts. À la fois, vous célébrez ce qui se passe ici au Québec, mais vous revendiquez des droits également, et vous êtes ouvert, sensible à la cause à l'étranger, en fait, des droits qui restent à acquérir à l'international.
Oui, et à chaque année, on met de l'avant une fierté qu'on soutient ou une organisation de la fierté qu'on soutient à travers le monde. Cette
ouais.
année, c'est le Laos. Donc, c'est l'organisme Proud to be Us Laos. Et on est allé passer quelques jours là-bas,
ouais.
voir un peu leur milieu de vie, comment fonctionnait leur organisation. Et on a les 6... dans le fond, organisateurs de Proud to be Us qui vont venir pendant la fierté, qui vont passer toute la semaine voir un peu comment nous on fonctionne et aussi connaître une autre réalité parce que c'est très difficile d'être soi-même là-bas.
Ouais.
Alors voir un peu et constater aussi qu'on est très privilégié ici à Montréal et au Québec de pouvoir vivre pleinement notre diversité.
On est privilégié, mais on peut se sentir un petit peu dépourvu par rapport à la situation de certaines personnes qui peuvent vivre à l'étranger. On peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire comme personne, comme citoyen canadien pour aider les personnes des groupes LGBT à travers le monde. Est-ce que c'est juste en se rendant au festival qu'on fait notre part? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Mais c'est sûr que de participer d'une façon ou d'une autre, personnel ou juste comme festivalier, mais c'est sûr que ça te positionne. Hein? C'est un commitment. Là,
ouais.
En fait, on fait un statement là,
ouais.
quand on participe au festival. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'artistes qui ne sont pas nécessairement dans les communautés qui participent parce que c'est un statement. Donc, c'est une façon de se donner pour la cause, de supporter.
Mm-hmm.
Mais sinon, il y a tellement d'organismes à Montréal et au Québec où est-ce qu'on peut s'impliquer et qui touche vraiment des différents pays ou est-ce que c'est encore des territoires hostiles pour la diversité.
Vous faites penser à Rammstein. D'ailleurs, tu as peut-être déjà vu ça, Manu. Il est en spectacle.
Ils se sont embrassés
oui,
sur scène.
Ça, ouais.
Dans quel pays déjà?
C'est en Russie, je pense.
Ouais,
c'est bien
un pays où encore il y avait une loi qui empêchait les mariages, qui empêchait littéralement d'être homosexuel. Je suis plus très
oui,
clair,
mais en
fait, j'ai vu ça passer.
En Russie, il y a un lourd passé. En fait, là, tout ce qui est l'avancement des droits, il n'y a pas d'avancement de droits, il n'y a pas de droits si
c'est
une personne de la diversité.
Ça avance pas. Bon,
en Russie.
C'est neutre.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça.
Maintenant, peut-être un mot sur la programmation parce qu'on entend de plus en plus parler de parité dans les festivals. Ça vient de plus en plus cycliquement, à savoir hommes-femmes. Vous, c'est un souci que vous aviez dans votre programmation d'avoir une certaine parité?
Oui, en fait, la parité, c'est quelque chose, c'est plus qu'un concept, hein. Il faut le démontrer. Nous, notre programmation, elle parle beaucoup. L'année dernière, on était très focus sur être paritaire, mais cette année, nos têtes d'affiche sont majoritairement des personnes qui s'identifient dans la féminité. Donc là, on a Sierra, on a Ariane Moffat, il y a Roxane Bruno, ouais. Fanny Bloom. On a beaucoup, beaucoup d'artistes qui s'identifient femmes et on en est très fiers. Et souvent, ça semble être un combat pour les autres festivals. On a de la difficulté à avoir des femmes alors que c'est complètement faux. C'est un positionnement qu'on a fait. On l'assume, on en est vraiment fiers.
C'est du 8 au 20 août prochain. Donc, c'est délimité dans le quartier gay précisément.
En fait, c'est du 8 au 18 août. Correctif au passage.
Oui, parce qu'on se rappelle que c'est ma fête.
Le 18, on s'en rappelle.
Parce que Kevin, c'est sa fête le 29. On l'a nommé c'est aux ça, 6 minutes. Là, je suis en train de l'intégrer tranquillement
à
la
mienne. Je m'en suis juste rendu à 32 fois. Ah, c'est ce que tu dis. C'est pas si pire quand même.
J'ai encore du temps quand même. Mais c'est jusqu'au 18.
Oui, et c'est majoritairement au Parc des Faubourgs. C'est le grand parc, dans le fond, quand on arrive vers Montréal, du Pont-Jean-Cartier, au coin Ontario et Delorimier. Tous nos spectacles extérieurs ou presque se passent à cet endroit-là. On a deux scènes, une scène intérieure et une scène extérieure. C'est une programmation qui est simultanée et différente. Mais on a également des panels qui se passent dans le village au Centre Saint-Pierre. On en a 8 cette année. On a la veillée revendicatrice, c'est au parc Émilie-Gamelin. Donc ça, c'est Berry-UQAM, là, pour ceux qui... Ça ne sonne pas une cloche.
Oui.
Sinon, on a des activités en périphérie un peu partout dans la ville. Également, on a beaucoup de partenaires. On a des trucs plus dans le centre-ville, au monastère, par exemple. Sinon, on a des trucs à Montréal-Nord aussi. Donc, on essaie d'être pas mal partout là, dans la ville.
Et on rappelle que le 18 août, donc, c'est le défilé à ne pas manquer. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette programmation-là qui vous attend dès le 8. Jean-François, c'était fort agréable et bonne continuation.
Merci.
Absolument.
Bonne
bravo.
Fierté.
Et bravo.
Merci.
Vraiment. On vient de vivre énormément de canicules dans l'été. C'était des canicules qui étaient notables. Je pense que tout le monde en a parlé. Et simplement dire qu'en mettant un petit bol d'eau sur notre balcon pendant qu'il fait extrêmement chaud, ça peut sauver des milliers d'animaux, entre autres les plus jeunes, comme les hérissons qui dépendent beaucoup de leur mère au départ. Si elles manquent d'eau, elles ont plus de lactation, donc ça fait boule de neige. Mettre des bols d'eau sur nos balcons, on fait vraiment, vraiment une différence dans le monde animal. Donc, changer le monde.
Vous écoutez Aime l'été.
Et au menu, le festival de Lévis, les premiers vendredis aux abords du stade olympique Oshiaga à Aime l'été.
On se bat et on s'oublie. On the edge of ecstasy. Et puis on se donne à contre-sens. Pour être l'auteur de nos attentes. Le soir tracé jusqu'à l'aube. Sans relâche à qui est la faute. L'envie doit tomber. Pour sombrer à contre-sens. Thank you.
Des fois, dans la vie, on a des beaux problèmes. Ça existe, des beaux problèmes, n'est-ce pas? Hein? C'est pas toujours négatif, un problème. Il y a des beaux problèmes, et c'est ce que le Festival de Lévis a vécu l'an dernier, parce que pour la première fois depuis sa création, le festival a dû fermer son site parce que c'était trop plein. C'était dans le cadre du spectacle de Bryan Adams. Et c'est ce que ça donne, recevoir des artistes de qualité et faire ses preuves depuis 37 ans maintenant. Sébastien Huot, directeur général, ça se prend bien des beaux problèmes comme ça quand on organise des événements en grand déploiement?
Effectivement, on les prend quand ils passent.
Et là, vous avez changé votre site cette année pour recevoir plus de gens, si je ne me trompe pas.
Ben, en fait, on a fait plein de configurations qui sont différentes de l'année dernière. Oui, effectivement, on peut accueillir un petit peu plus de monde sur la scène secondaire, qui est la scène Hydro-Québec, où on reçoit des artistes, exemple, Patrice Michaud, La Chicane, Grégory Charles, et la scène Hydro-Québec. Et sur la scène de l'Auto-Québec, celle qui a accueilli Bryan Adams l'année dernière, on l'a épuré beaucoup. Donc, on a construit des tours de délai, sonorisation qui obstruent pas moins la vue, du moins. Donc, on a changé la sonorisation. Donc, honnêtement, pour l'expérience festivalier, ça donne un bon coup de main.
Donc, c'est toujours au parc Champigny?
Absolument.
Super. Et on voit des retours importants d'artistes comme Smash Mouth, qui nous a donné des hits genre I'm a Believer, tu sais, dans les années 90, début 2000, à côté de la relève comme Rick Pagano, le chanteur de Final State, grosse sensation à la voix cette année, qu'on vient d'entendre d'ailleurs avec la version française de Fever, effectivement. Est-ce que c'est important quand on est directeur général, directeur de la programmation, quand on fait un festival comme le festival, de balancer les artistes entre ceux qui sont bien établis et le retour et la relève?
Absolument. En fait, faut commencer un festival comme le nôtre. On essaie de plaire au plus grand public possible. On essaie de présenter de la relève en première partie de grands artistes pour être capable de leur donner un bon coup de main, puis peut-être éventuellement percer un petit peu plus loin, réussir à faire des tournées avec des bandes internationaux qui pourraient leur donner une bonne visibilité. Ben, on essaie de les placer en première partie tout le temps, comme c'est le cas avec Rick hier. Ben, Rick, on a appelé Rick, on a dit, écoute, on a la première partie avec l'ambassadeur qui est disponible, puis qui voudrait que ce soit toi. Donc, à partir de là, les jeunes de la relève, artistes émergents, vont prendre l'opportunité avec grand plaisir. Puis, on essaie aussi de doser le côté international et le côté artiste québécois.
Local, ben oui.
Parce qu'on a des bons artistes au Québec, puis on veut les présenter, puis les gens apprécient.
Tu viens de dire que Rick était là hier. Il faut rappeler que le Festival de Lévis bat son plein depuis le 31 juillet. C'est la dernière fin de semaine. Ça se passe jusqu'à dimanche, le 4 août. Et c'est plusieurs activités. C'est pas juste des spectacles, le festival. Au contraire, il y a des montgolfières, ça le dit, hein, festival. Il y a des spectacles, des manèges, des jeux d'eau, des ateliers de jouets, des jeux vidéo pour les enfants. On a mis la totale. On parle de jeux gonflables. Et vous avez sorti l'artillerie lourde avec la brigade de la patte patrouille.
Oui, effectivement. Ben, qui dit famille, ça veut dire parents qui accompagnent les enfants également. Donc oui, il y a la patte patrouille, il y a Thomas Latrain qui fait plaisir aux enfants. Mais à même la programmation familiale, il y a toutes les activités que vous avez dit, mais il y a également la troupe de danse Marvel qui vient aussi faire des spectacles. Fait que c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Donc, les familles au grand complet peuvent apprécier leur présence ici à festival.
Il y a quelques activités au programme qui ont piqué ma curiosité, soit l'Olympique Canac et Louis en folie. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que ça restait vague pour moi.
Ben, en fait, l'Olympique Canac, c'est est un partenaire également. Donc, c'est des Olympiades qui sont faites par Pro Ludique. C'est des jeux gonflables où c'est tout simplement des courses où ce que tu passes dans la mousse, tu fais de l'escalade, tu passes à travers des obstacles. Donc, ça, c'est l'Olympique Canac. Et Louis en folie, c'est commandité, c'est une exploitation de l'aube. Donc, l'aube, c'est pour les problèmes pour les malentendants, pas nécessairement les malentendants, mais ceux qui ont des problèmes d'ouïe. Puis également, leur exploitation fait en sorte qu'ils prêtent des coquilles pour la protection des oreilles pour les jeunes pendant les spectacles en soirée. Parce que évidemment, quand on va devoir des spectacles comme Weezer samedi ou Sean Paul ce soir, ben évidemment le son est particulièrement fort, puis on veut faire attention aux oreilles de nos enfants. Ben il y a des prêts de coquilles qui font en sorte que les enfants puissent participer au spectacle en toute sécurité au niveau de leurs oreilles, tout simplement.
Ouais. Est-ce que vous anticipez ou est-ce que vous savez déjà si vous allez battre votre record demain avec Weezer?
Écoute, on espère, on se croise les doigts. Mais évidemment, Bryan Adams a beaucoup, beaucoup, beaucoup de public. Honnêtement, il me surprend à chaque fois qu'il sort dans un festival. Donc, l'année passée, c'est quand même assez exceptionnel. Au niveau de la programmation de cette année, elle est très grosse, mais plutôt équilibrée sur certains soirs. Mais effectivement, Weezer va être une des grosses soirées. Si on a terminé ça, on fermera le site, mais pour l'instant, il reste encore des billets.
Moi, je les ai vus en spectacle il y a quelques années à Oshiaga, Weezer. Ils donnent tout un spectacle, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, au Centre Bell, peu importe. Ils donnent toujours un excellent spectacle aux gens présents sur place.
Effectivement, puis on a tout le temps des prestations de toute leur rythme. C'est ce qui est plaisant avec Weezer. Oui, on a des nouveaux albums. Oui, on devrait entendre Africa pendant dans cette liste de demain, mais on entend...
Buddy Holly, on veut Buddy Holly.
Bon vieux hit, oui, effectivement.
Oui, exactement. Et Sébastien, le festival, les organisateurs dont toi, vous avez à cœur le bien-être des festivaliers, vous offrez sur votre site Internet des options d'hébergement et de transport, entre autres en partenariat avec la Société de transport de Lévis.
Oui, on est à Saint-Jean-Chrysostome depuis 37 ans. La programmation a évolué terriblement dans les 10 dernières années en termes d'artistes internationaux, donc on accueille de plus en plus de monde. Mais ce qui arrive, c'est que le quartier Saint-Jean-Chrysostome à Lévis, lui, il s'agrandit pas. On peut pas rien faire par l'intérieur. Oui, il y a 5 voies sur l'avenue Taniata en face du site. Par contre, lorsqu'on accueille des grosses foules, ben, on suggère fortement de prendre ces navettes-là. Puis de toute façon, c'est 1$ le transport. C'est un beau partenariat avec la société de transport. Donc, on va chercher des gens à 3 places dans la grande ville de Lévis. Une place l'autre bord des ponts, à l'entrée des ponts à l'Aquarium de Québec. Donc, prenez la navette. Il y a des voies réservées. Ça va extrêmement vite. Puis ça facilite beaucoup la circulation ici à Saint-Jean-Chrysostome.
Super. Et Sébastien, en terminant, il y a des objets qui sont autorisés, d'autres qui ne le sont pas sur le site. À noter que les animaux ne sont pas permis, sauf pour les chiens guides. On ne peut pas amener nos chaises non plus. Les fauteuils roulants sont acceptés, bien sûr.
Bien sûr. Ben oui.
Et qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre pour ne pas se faire avoir une fois notre sac à dos rempli de choses interdites? D'ailleurs, les gros sacs à dos sont interdits, il faut le dire tout de suite.
Oui, bien, en fait, l'important, c'est qu'on veut pas de bouteilles de vitre, on veut pas de bouteilles en acier inoxydable, on veut juste faire attention à notre public. On accepte tout de même les gourdes à plastique rigide parce qu'il y a des zones d'eau ici où les gens peuvent remplir leurs gourdes. Parce qu'évidemment, on veut que les gens profitent d'une belle journée. Puis, en étant familial, ben, on accepte évidemment que les familles amènent leur petit lunch. Mais en fait, on veut juste pas que ça devienne des espèces d'objets contondants. Donc, juste faire attention à ce que vous amenez, puis vérifier la liste qui est présente sur notre site Internet, tout simplement.
Et c'est le festival, la 37e édition. C'est au Parc Champigny jusqu'à ce dimanche 4 août. Vous êtes également branché sur la toile, sur les réseaux sociaux, avec le mot-clic Enflammer l'été. Si on veut plus d'informations, on se rend sur le festivan.ca ou on vous téléphone au 418-833-2333. Sébastien Huot, merci beaucoup et bon succès encore. Et donnez-nous des nouvelles pour Weezer.
C'est un grand plaisir, merci.
Merci, bye-bye.
Au revoir.
Bye-bye.
So you tell me that I'm a lucky name. You're so right, yes, you're so right. Girl, you know, there's no other place I'd be right now, holding hands with my baby. So I'm gonna love you until the sun comes up. Be that extra sugar you need in your cup from this love. There's no a day goes by when it's me alone, like a soldier, can't wait to come back home, and to let you know, every man on earth wish they had you, for their special lady, so I'm gonna love you, until the sun comes up, you're that extra sugar. There's no holiday
So you tell me that I'm a lucky man. And you're so right. Yes, you're so right. Girl, you know there's no other place I'd be right now, holding hands with my baby. So I'm gonna love you until the sun comes up. Be that extra sugar you need in your cup. From this love, there's no holiday. From this love, we will take a break. No, from this love, there's no holiday. From this love.
On vient d'entendre la chanson Lucky Man, chantée par Courtney Jones. C'est une chanson qui fait partie de la soundtrack du film Chief. Et on en a parlé un petit peu à micro fermé, toi et moi. Je te disais, ah, t'as-tu écouté le film Chief? Mm-hmm. Et on n'allumait pas trop. Et c'est le film, pour moi, sur les food trucks, la cuisine de rue, les camions, les camions alimentaires, on appelle ça de même en français.
Ben, c'est une belle traduction.
Moi, food truck, là,
ouais,
je te dirais.
C'est ça que ça dit tout. C'est disponible sur Netflix. Je suis tombé dessus à un moment donné un petit peu par hasard. Puis j'ai vraiment aimé ça.
Super bon film avec des têtes d'affiches comme Jon Favreau, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Dustin Hoffman, ouais. Oliver Pratt. Et c'est ce qu'on se disait un peu, c'est un film avec un peu pas une essence, mais un feeling des films des années 90. Ouais.
Tout le long du film, je le regardais, puis moi, je me disais, OK, quand est-ce que ça va mal virer? Quand est-ce qu'il va y avoir un accident? Quand est-ce qu'il va pogner le cancer? Puis il n'y a pas vraiment de drame, c'est juste une aventure.
Il y en a un peu, parce qu'il y a tout le temps le dénouement.
Il y a quand même
là,
une trame narrative à travers ça. Mais
il y a un scénario.
C'est ça. C'est pas juste un gars qui fait cuire des burgers dans son truck, là. Mais j'ai vraiment aimé ce film-là. C'est disponible sur Netflix. Ça vous dit quelque chose? C'est Jon Favreau. Je pense qu'il est en train de se hisser à la tête de mes personnalités du cinéma favorites.
C'est vrai, mais ouais. Je pourrais même... Je ne suis pas une cinéphile. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute énormément de films. Si je veux voir un film, il faut vraiment que j'aie envie de voir ce film-là. Ouais. Genre Le Roi Lion. Mais présentement, je cherche quelqu'un qui viendrait avec moi puis ne pas gêné de mon déversement.
Je suis allé hier et tu sais que c'est Jon Favreau qui est le réalisateur.
Ben là,
voilà. C'est là où je m'en allais.
C'est pas vrai!
C'est lui qui le réalise. C'est super bon. Puis il était aussi dans Spider-Man que je suis allé voir il y a quelques semaines. Le dernier Spider-Man.
Ça, c'est moi mon genre.
C'est moi ton genre. J'ai bien aimé ça, Le Roi Lion, en tout cas. Ben, ma copine, surtout, là, elle, c'est elle qui voulait aller le
Fais-tu
voir.
Fais-tu pleurer?
Non, parce que je savais quand est-ce qu'on devait pleurer, puis j'ai le sens que j'avais déjà pleuré cette mort-là, fait que j'avais pas vraiment le goût de pleurer la mort, tu sais, vu que c'est comme un...
De Mufasa est mort quand t'avais 9 ans, en 94.
Oui, c'est ça. J'ai quand même un petit rire nerveux quand il est mort, puis comme ma blonde n'a pas trouvé ça drôle, mais finalement, elle a ri elle aussi. Mais c'est un bon film, j'ai quand même bien aimé ça.
Ah, moi, j'attends de savoir si c'est ça quelqu'un qui veut venir avec moi puis qui sera pas gêné du fait que je vais trop pleurer pour la Ligue, parce que tout le monde pleure, mais moi, je pense que je vais vraiment être un peu au-dessus de la moyenne.
Donc, vas-y, genre l'après-midi quand il y a pas trop de monde, si tu veux pas être trop gêné.
Et seul, mais j'ai écouté la bande-annonce avant-hier et j'ai pleuré pendant la bande-annonce, puis j'en ai écouté un autre juste parce que je pense que j'avais encore envie de pleurer.
Mais là, la question, c'est est-ce que tu veux aller l'écouter en français ou en anglais? Parce que moi, ma blonde, elle, dans ses souvenirs, elle l'écoutait en français.
Oui, c'est ça.
Puis là, elle connaissait les chansons en français et en anglais, mais on dirait que ça avait comme pas le même fil, on allait le voir en anglais. Puis comme, bon, ça a l'air que le Hakuna Matata et tout ça, les paroles en français sont très bien représentées, même si la version originale aussi est super brillante, là. Mais bref...
C'est une question que je m'étais pas posée, parce que j'écoute tout en anglais, moi, mais là...
Mais quand t'étais jeune...
C'est ça.
Ouais.
Même les films de Disney que je réécoute ou que je retrouve sur le net, que ce soit en streaming, que ce soit en download ou que ce soit sur Netflix.
Ouais.
Des fois, la version française, si je suis avec quelqu'un qui veut l'écouter en français, c'est le français de France.
Ouais.
Et c'est pas les mêmes expressions, même les chansons n'ont pas les mêmes paroles. Clairement. Et là, vraiment, ma magie d'enfance
disparaît.
Part par la fenêtre.
Ouais. Ben, moi, je serais bien curieux de leur écouter Le Roi Lion, bref, en français éventuellement.
C'est ça. Mais on a un petit peu chiré en français sur cette. chanson qui fait partie de la trame sonore du film
Chief.
C'était pour introduire, entre autres, les premiers vendredis camions de cuisine à travers
food
le
truck.
Canada. C'est ça, les food truck à travers le Canada. On était supposé d'avoir Guy-Vincent Mello, qui est le président et le cofondateur des premiers vendredis. Premier vendredi qui va avoir lieu ce soir au Parc olympique. Malheureusement, on ne peut le rejoindre. Peut-être qu'il est dans un règlement de dernière minute. Mais Kevin, tu as quand même regardé un peu l'événement juste pour pour nos auditeurs et moi-même parce que je savais même pas que ça existait. Tu sais.
Ouais, l'année passée, ben, je sais pas si ça fait combien d'éditions, mais l'année passée, je sais que ça avait fait bien des heureux, puis c'est vraiment des masses qui se ramassent aux abords du stade olympique. Il y a vraiment des grands cuisiniers venus de Toronto qui viennent nous offrir de la bouffe. C'est quand même...
Ça vient de Toronto?
Ben, cette année, le chef invité provient de Toronto, okay. Et c'est un grand chef. Donc, il y a autant de la fine cuisine que des bons vieux hot dogs et hamburgers qui sont vendus. Et une nouveauté qui est intéressante cette année, c'est qu'ils se sont associés avec les regroupements sportifs aux abords du stade olympique. Ça a bien du bon sens. Fait que non seulement, tu vas pas te sentir mal d'avoir mangé 6 tacos parce que tu vas pouvoir bouger en même temps à côté. Il y a plein d'activités, dont notamment du basketball en fauteuil roulant et du boccia, deux sports paralympiques. Moi, je trouvais que c'est une belle initiative de mélanger ces sports-là.
On sait à quel point j'aime ça, le sport.
Oui, mais tu sais, t'aimerais pas ça essayer le boccia? C'est comme un petit peu la pétanque, le boccia.
C'est quoi?
Ben, la pétanque, tu sais c'est quoi?
Oui.
Ben, c'est grosso modo un peu comme ça, mais la version paralympique, en fait, pour des athlètes qui sont souvent paralysés ou avec des membres incapables d'utiliser certaines parties de leur corps.
Okay.
Fait que il y a toute cette offre sportive-là qui les attend, en plus de toute cette bouffe-là. C'est tous les premiers vendredis de chaque mois jusqu'en octobre qui vous attend.
Et... j'ai une drôle de question. Je ne sais pas si tu vas être au courant parce qu'on n'a pas, Guy qui est avec nous. On n'a pas Guy Vincent Melo qui est avec nous. Mais Kevin, comme tu es l'expert de cet événement-là dans le cadre de cette émission, j'ai une question à savoir parce que je le sais que ce n'est pas la première édition, si je ne me trompe
non,
pas.
Effectivement.
Est-ce que avec la venue de la consommation éco-responsable, locale, véganisme, gluten-free, sans gluten, et est-ce qu'on sait si les camions de cuisine ou food truck vont avoir un petit peu changé leur menu ou vont s'être adaptés à ça?
Moi, je suis certain qu'ils se sont adaptés parce que quand tu regardes à la liste de choses disponibles, ben, ils mettent bien en évidence les plats vegan, mais aussi juste les plats végétariens, les smoothies, les grilled cheese, etc. En fait, si on veut faire la nomenclature complète, il y aura bien sûr, oui, de la poutine, mais aussi de la pizza, des sandwichs, des bangs, des churros, des gyros, des ribs, des lobster rolls, des tacos, des paellas, des burgers, des smoothies, des grillades, des salades, des raclettes, des dumplings, des smoothies. Et si vous avez encore l'eau à la bouche, ben, sachez qu'à partir du 17 août prochain, ben, il y aura également le Ribs Fest qui va avoir lieu dans le Vieux-Montréal. Je sais pas si t'es une amateur de côte levée, mais moi, je le suis vraiment beaucoup.
Ben... Moi, je suis flexi, là. Je suis comme une fausse
vegan
à la mesure où à la maison, jamais j'achèterais des ribs. Par contre, puis je suis pas une fan du tout de viande rouge. Ça n'a pas été dur pour moi d'arrêter de manger de la viande rouge. J'aime pas ça. Mais les ribs, c'est une autre affaire.
C'est une exception, hein?
J'ai deux restaurants où je vais aller manger des ribs et là, je te dirais que je m'en donne à cœur joie.
Moi aussi, je suis pas très viande rouge, sauf pour ça, ou encore des filets de cheesesteak.
Là, des quoi?
Des filets de cheesesteak. C'est pas c'est quoi?
Non.
Oh mon Dieu, c'est comme le repas.
Tu vois à quel point je suis pas dans le spectre de la viande rouge.
C'est comme un steak effiloché, en fait, avec du fromage, puis c'est le repas classique, typique de la ville de Philadelphie. Ça se fait sur le barbecue, sur des plaques à biscuits, par exemple, mettons. Fait que moi, c'est mes deux exceptions pour les viandes rouges que je pourrais faire. Bref, c'est pas un bon moment pour être végétarien en ce moment à Montréal avec le Ribs Fest qui s'en vient.
Ben, tu sauras qu'à la maison, mon beau-frère, qui est le mari de ma sœur, a fait un magnifique hamburger avec du tofu râpé, mais dans la poêle, très croustillant, avec tout ce qui est sriracha, sauce Diana, puis tout ce que tu voudras, qui ont fait, sérieusement, là, c'était à s'y méprendre, et c'était... Je t'en parle, j'ai eu l'air à la bouche, c'était succulent parce qu'il est midi 22 et j'ai faim.
Moi aussi, j'ai faim.
Pourquoi t'es né ici?
Pourquoi je suis né là-bas?
Pourquoi tu m'as souri?
Pourquoi je t'ai pris dans mes bras?
Nos regards ont uni la marche de nos pas.
Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi,
que c'était toi.
Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi,
que c'était toi.
Pourquoi je me suis noyé dans le bleu de tes yeux?
Pourquoi je suis bien nulle part qu'avec toi dans ton vieux?
Dans tes draps c'est Venise, ce soir c'est le grand bal.
Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi.
Pas besoin de savoir
ça, ni pourquoi, ni comment on s'est rentré dans la toute première fois.
Tout est pas
ça, mais la vie nous surprend, la vie nous apprend
à suivre l'élan du vent. Pourquoi on se fait du bien?
Pourquoi on se donne du mal? Pourquoi j'ai peur de rien?
Quand tu joues la gitane,
tu chantes, tu danses, tu lis
dans ta boule de cristal. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi,
que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi.
Pourquoi le soleil revient quand tes yeux me regardent? Pourquoi la pluie c'est rien comparé à tes larmes?
Ne pleure plus mamie, viens danser dans mes bras.
Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi.
Pas besoin de savoir
ça, ni pourquoi ni comment on s'est rentré dans la toute première fois.
Tout est pas
ça, mais la vie nous surprend, la vie nous apprend à suivre l'élan du vent.
Pas besoin de savoir. Tout est pas
ça, mais la vie nous surprend, la vie nous apprend à suivre l'élan du vent.
Pourquoi pas moi? Pourquoi pas pour toi?
Pourquoi pas moi? Pourquoi pas pour toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas pour toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pour toi?
Pas besoin de savoir
ça, ni pourquoi ni comment on s'est rentré dans la toute première fois.
Tout est pas
ça, mais la vie nous surprend, la vie nous apprend à suivre l'élan du vent.
Pas besoin de savoir
ça, ni pourquoi ni comment.
Tout est pas
ça, mais la vie nous surprend, la vie nous apprend
à suivre l'élan du vent.
Le génie étudiant au service et à l'aide des personnes avec un handicap qui viennent nous aider à innover pour favoriser l'accessibilité et une société sans obstacles. C'est ce qui nous apprend le fil de presse de l'Université de Montréal qui souligne que deux de ses élèves ont reçu des prix pour des initiatives qui ont été menées. Un premier, c'est un outil de dépistage des difficultés sur le plan sexuel que les personnes avec des AVC pourraient avoir. Une fois que tu as un AVC, on dit que 50% d'entre eux vont éprouver des difficultés avec leur sexualité après cet accident vasculaire cérébral-ci. Mais vraiment, souvent, ils se frottent à un manque de connaissances dans le centre de réadaptation et un manque de tact de la part des intervenants réadaptation.
Ben, je comprends. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça.
On n'y pense pas parce que la réadaptation...
Est-ce qu'on sait pourquoi?
Ben, quand tu vas avoir un AVC, déjà, souvent, ta mobilité va être réduite de moitié. Mm-hmm. Souvent, tu vas être paralysé d'une partie du corps. On va commencer dans les premières étapes à te montrer comment te réhabiller, comment manger, comment marcher, etc. Mais on va moins souvent aborder la question de la sexualité. Et c'est donc là que rentre en ligne de compte un petit guide qui a été mis sur place aux besoins et à la disponibilité, dis-je bien, des centres de réadaptation. Donc, les étudiants en réadaptation qui ont monté ce guide-là vont se mériter un prix de 5 000 $. Et deuxième innovation, c'est l'application OnRoule qui est en ce moment mise sur place. Donc, c'est inspiré du site onroule.org qui vise à répertorier tous les lieux accessibles, dis-je bien, à travers le Québec en fauteuil roulant. On construit maintenant une application qui va nous permettre d'identifier quels lieux sont accessibles. On parle de bars, de restaurants, de commerces, de magasins, etc. Mm-hmm. Mais également de mettre en contact ces personnes-ci pour pouvoir donner du feedback sur l'accessibilité de ces places-là.
Donc, on va pouvoir maintenant émettre des commentaires, donner des étoiles, un petit peu comme Facebook.
Autant sur l'accessibilité que sur la bouffe en général qui se trouve. On aime ça, on n'aime pas ça. Voilà, c'est une belle initiative qui a aussi mérité un prix à un étudiant de l'Université de Montréal.
Hey, bravo tout le monde!
Vous écoutez Aime l'été.
M'l'été avec Emmanuel Robitaille et Kevin Breton encore pour 30 minutes avant le grand week-end. Le grand week-end de quoi? On le sait pas. Le grand week-end de la fin de la course.
Oui, de Chicago. Pour moi, les hipsters de Montréal, c'est un grand week-end.
Et la dernière fin de semaine du festival. Donc, pour tous ces festivals, d'ailleurs, Kevin, un petit peu plus tard, tu vas nous parler comment survivre en fauteuil roulant. Et souvent, tu fais une petite aparté sur comment survivre tout court à Chicago et au festival. Et juste avant, on va recevoir encore une fois Maxime Despomerleau qui nous invitera à sortir juste avant qu'elle parte elle-même au Mexique. On va gagner ça un mot. Très belle initiative, absolument. Restez des nôtres.
C'est vrai que les pauvres sont bien mal pris. Toutes leurs amies sont pauvres aussi. En deux bouchées de pain moisi. Et je me sens un peu moisi, moisi. C'est vrai que les riches sont pas fins, fins. À Chiquitou, le temps sur le voisin. Entre une BM pis une Ferrari. Et je me sens un peu moisi, moisi. Quelque chose d'important. Faut que je te dise que je t'aime vraiment. Faut que je te dise que ma tête s'oublie souvent. Et que mon cœur reste tout le temps. Il est pas parti pour autant. T'es apparu comme un ovni. Tu me dis j'ai besoin d'un ami. Dis-toi que t'as pas trop mal choisi. Je me sens un peu moisi, moisi. Je me demande plus de quel côté je suis. T'es ma richesse, ma belle amie. Même si tes fesses sont bien grossies, je me sens un peu moisi, moisi. Faut que je te dise quelque chose d'important. Faut que je te dise que je t'aime vraiment. Faut que je te dise que ma tête s'oublie souvent. Et que mon cœur reste tout le temps. Il est pas parti pour autant. C'est vrai que des fois tu me tombes ses nerfs. Avec ton hostie de caractère. Entre tes histoires et mes mentries. Je me sens un peu moisi, moisi. C'est vrai qu'à soir, je te trouve sexy. Devine de quoi j'aurais envie. Tu le sais-tu? C'est pas grave si tu sens le pipi. Je me sens un peu moisi, moisi. Un peu moisi, moisi.
Moisi, moi-ci, moi-y, c'est un peu le sentiment qu'on peut tous ressentir à un moment ou à un autre de nos vies quand notre santé mentale est atteinte. On parle de dépression, de troubles de personnalité, des états psychologiques et émotionnels qui sont pas faciles et qui gobent énormément d'énergie et de bien-être pour les gens qui en sont atteints. Et le Rockfest pour la santé mentale, dont William Delaurier fera partie, qu'on vient d'entendre, en sera à sa 6e édition pour souligner, conscientiser et faire du bien à ce phénomène de société qu'on ne peut pas ignorer. Maxime Despomerleau, c'est le premier événement auquel tu vas faire référence dans cette belle chronique culturelle. Contente de te retrouver en ce vendredi.
Ben oui, moi aussi. Écoute, Emmanuel, t'as tellement fait une belle introduction que tu pourrais faire la chronique, si tu veux.
Non, ça va être bien beau, je t'écoute. Je vais prendre un break.
Mais oui, donc le Rockfest pour la santé mentale, c'est un événement que j'aime beaucoup et dont je tiens à parler à chaque année dans mes chroniques. Comme tu l'as dit, c'est la 6e édition. Mm-hmm. Ça a lieu la semaine prochaine du 8 au 11 août au parc Béram à l'Épiphanie. Donc, l'événement a été fondé en 2014 et la mission est vraiment de soutenir les ressources en santé mentale, briser les tabous et l'isolement face aux troubles de santé mentale. Donc, il y a plusieurs organismes présents. Je vous les nomme. La Lueur du Phare de Lanaudière, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière, Réseau Ado, Maison des jeunes de l'Épiphanie, Association spéciale, spatiale. C'est une association qui vise à diminuer la perception des différences aux yeux des enfants et de leurs familles. Jeunesse en tête, donc on voit qu'il y a une bonne implication auprès de la jeunesse. Et il y a un nouvel organisme qui s'est joint cette année, aidehomme.com, un centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière. Et puisqu'on sait que les tabous autour de la santé mentale sont extrêmement forts chez les hommes,
absolument.
On salue l'engagement de l'organisme. Et donc, tout le week-end...
À Québec, je veux simplement dire, pour les gens de Québec qui nous écoutent, il y a l'autonomie, qui existe.
Excellent.
Également.
Merci de le mentionner. Toute la fin de semaine, c'est un camping aussi, donc on peut y camper si on veut. Il y a des food trucks de restaurants de la région, des artisans locaux, des spectacles de magie, du karaoké pour la journée familiale du dimanche, une massothérapeute sur place aussi, mais surtout, évidemment, des concerts. Donc, le jeudi 8 août, c'est la soirée Rock ton mental avec Martin Deschamps. Vendredi le 9 août, il y a Anonymous et Exterio et plusieurs groupes locaux qui seront là. Le samedi, c'est Your Favorite Enemies, qui est un groupe rock alternatif québécois. On pourra rencontrer le chanteur Alex Henry Foster, qui s'est présent dans ses textes, a déjà vécu avec des troubles de santé mentale et est très, très, très ouvert à en parler. Cette journée-là, plusieurs groupes hommages aussi, Deep Purple, Metallica, Live, Tragically Hip. Et le dimanche 11 août, il y a effectivement notre ami William Delaurier qui sera présent, William qui s'est ouvert l'année dernière.
Exactement, oui.
Sa dépression. Il y a Hugo Lapointe aussi, Sébastien Plante des Respectables avec son projet La Sebs Music Shop, le bluesman Carl Tremblay. Donc, il y a vraiment un gros week-end de musique. Ça se veut très familial, très, très axé sur le bien-être aussi. Donc, les billets sont 60$ pour les 4 jours, encore en pré-vente. Et sur place, ça va être 75$. Donc, on va rocker notre mental à l'Épiphanie la semaine prochaine.
Sais-tu, Max, si on peut acheter des billets à la journée?
Oui, on peut acheter des billets à la journée. Si on les achète en pré-vente, c'est autour de 20$ par jour.
Okay.
Et sur place, le prix est légèrement augmenté.
Super, merci. Virée classique de l'OSM.
Oui, la virée classique de l'OSM. Donc, si on va... rocker notre vie un petit peu.
On peut aller se le calmer aussi après avec l'Orchestre symphonique de Montréal.
C'est bien d'aspirer à un régime de vie équilibré, hein, Emmanuel? Donc, il y a la virée classique de l'OSM, cette fois-ci à Montréal. C'est pour une 8e année consécutive qu'elle s'amorce la semaine prochaine. C'est l'occasion de voir une trentaine de spectacles à partir de 10$, dont plusieurs représentations gratuites. C'est un événement unique en Amérique du Nord et donc c'est une célébration musicale. C'est le festival de musique classique à Montréal. Le coup d'envoi, c'est mercredi le 7 août à l'esplanade du Parc olympique avec l'OSM et plus de 300 choristes qui vont interpréter le Requiem de Verdi. Mm-hmm. Et si je regarde un peu la programmation gratuite, il y a beaucoup de choses qui se passent, entre autres au Complexe des Jardins, à la Place des Festivals, à Place des Arts également, et sur la rue Sainte-Catherine, en général, il va y avoir beaucoup d'animations. Le 9 août à midi, au Complexe des Jardins, c'est l'orchestre de jeux vidéo. Alors, si vous êtes fan de Mario Bros, Zelda, Tetris, que ce soit des plus récents ou des jeux rétro, donc nos musiques préférées vont s'y retrouver. À 17h, il y a Figaro Presto, un concentré de l'Opéra du Barbier de Séville, donc un des opéras les plus célèbres. Oui. Alors, 4 personnages, un pianiste, 1 heure seulement. On va vraiment dans le cœur de l'action. Et le 10 août, c'est le Grand Continental de Sylvain Aymard Danse. En 2017, il avait fait le Super Méga Continental avec 375 danseurs à la Place des Festivals. Vous aviez peut-être vu ça passer. Et donc, les danseurs, ça se revient. En fait, finalement, les danseurs seront accompagnés en direct de l'OSM sur la Place des Festivals. Alors, on invite vraiment tout le monde qui a envie de danser un set carré à se présenter. Les pré-auditions sont à 15h30 dehors et donc le spectacle un peu plus tard dans la journée. Et finalement, le 11 août, il y a l'Orchestre avant classique de Lille sous la direction de Éric Levasseur au Complexe des Jardins dès midi. Donc, il y a vraiment plusieurs orchestres qui performent tous les jours de la musique jazz et il y a une programmation en salle évidemment qu'on peut consulter sur le site de l'OSM. Mais je voulais vous titiller un peu avec la programmation gratuite parce que c'est vraiment un bon moyen de découvrir de la musique classique et de tout type, de toutes origines aussi.
Et on a passé du rock au classique, on a parlé que c'était un peu équilibré. On était dans les extrêmes. Pour équilibrer ça, est-ce que le théâtre La Roulotte nous présente quelque chose d'un peu plus dans le milieu ou
Premièrement, c'est du théâtre. Donc, c'est le théâtre La Roulotte, c'est une maison de théâtre pour les jeunes. C'est un théâtre itinérant, donc vraiment dans la tradition des théâtres de roulotte. La roulotte constitue la scène et tous les accessoires. Elle s'installe dans des parcs différents tout l'été. Et donc, c'est une création cette année qui est différente. L'année dernière, on avait présenté... Parfois, on présente des classiques, comme Le Petit Prince, par exemple. Mmh. L'année passée, c'était ça, entre autres. Cette année, c'est une création. Beaucoup de jeunes étudiants, en fait, qui sortent de l'École nationale, y performent. C'est un bon moyen de découvrir. Et c'est vraiment familial. Les tout-petits peuvent y trouver autant de plaisir que moi-même, à passer 30 ans, j'y vais quand je sais que c'est dans le parc près de chez nous.
C'est pour tous, donc.
Oui, tout à fait, pour tous. Et encore jusqu'à la mi-août environ. Ils ont déjà commencé leur saison en juin, en fait. Et là, voilà, ça va jusqu'à la mi-août. Pour avoir plus d'informations, on peut entre autres aller sur Facebook voir le spectacle Cache-Cache. Toutes les dates qui s'en viennent sont présentées dans différents événements. Donc, vous pouvez voir dans votre arrondissement où est-ce que c'est présenté. C'est dehors. Donc, voilà. Et ça dure environ 45 minutes à 1 heure par représentation.
Merci beaucoup, Maxime. Maxime, on te connaît comme chroniqueuse sur les ondes de Canal M. Peut-être qu'on te connaît moins comme artiste. Et là, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. Ben là, mauvaise nouvelle pour les auditeurs, tu seras pas là la semaine prochaine. Mais tu as une excellente excuse. Et c'est pas seulement des avocats et des tacos qui t'attendent au Mexique, là où tu seras à partir de la semaine prochaine. Dis-nous en plus, s'il vous plaît.
Tout à fait. Merci de m'accorder ce petit temps d'antenne. En fait, je vais participer à un festival et une résidence artistique qui s'appelle Camp Inn à San Luis de Potosí, au Mexique. Mm-hmm. Donc, je quitte mardi prochain, si tout va bien avec mon avion. Et ça commence le 7, c'est du 7 au 17 août là-bas. Donc, je ne serai pas là en ondes avec vous, mais vous allez être dans mon cœur, bien sûr. Et donc, c'est l'objectif, c'est organisé par Moving Borders, qui travaille sur à explorer, en fait, le rôle social de la danse, la diversité corporelle dans les arts performatifs et dans la création contemporaine. Ils sont installés à la fois au Mexique, en Europe, au Canada, et ils ont différentes antennes un peu partout. Et un de leurs projets, entre autres, dont je peux vous parler, si vous êtes curieux d'aller voir ce qu'ils font, c'est Moving Bodies. Donc, ils travaillent en Europe et au Canada avec des réfugiés syriens. Mmh. Donc, c'est vraiment, au-delà de l'art-thérapie, c'est vraiment de se questionner, nous, en tant qu'artistes, pédagogues, académiciens, danseurs et chorégraphes, à quoi on sert? qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est là-dedans que je m'en vais et ben, ça va me faire plaisir de vous en reparler quand je vais
c'est
revenir.
C'est ça. À ton retour, tu auras une belle raison de revenir en studio.
Oui, il faut dire, je veux souligner que tu as été sélectionnée pour ce projet-là. Donc, félicitations, bravo à toi. C'est une très belle nouvelle. Et si je ne me trompe pas, notre calendrier nous ramène au 23 août pour ta prochaine chronique culturelle.
Tout à fait.
Bon voyage, Max.
Prends du soleil.
Merci. À bientôt. Et je vais manger des tacos.
Summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. That heat, I feel like summer. She feels like summer.
On vient d'entendre le chanteur Childish Gambino avec la chanson Feels Like Summer. Childish Gambino qui a été choisi pour mettre la table pour ta chronique Comment survivre en fauteuil roulant à Oshiaga et au festival, Kevin, parce que Childish Gambino est un artiste qui sera présent dans le line-up, en fait, qui est listé dans le line-up de Oshiaga. Mais comme tout est dans tout, et j'ai fait cette programmation le musical sans savoir qu'on allait parler du Roi Lion, de John Favreau qui finalement le réalise. Mm-hmm. Et Childish Gambino est la voix de Simba dans Le Roi Lion, et la voix de Simba adulte, bien sûr, dans la version anglaise, avec Beyoncé Knowles, Carter qui fait la voix de Nala.
Et Seth Rogen.
Sincèrement, le monde est petit. Hein?
Le monde est petit. Seth Rogen, que j'ai bien aimé également dans le rôle de Pumba. Bref, c'est ce soir que débute la grande messe annuelle des hipsters, le festival Oshiaga. Rappelons les têtes d'affiche de cette édition 2019. Des milliers de sachets vides de la SQDC abandonnés aux abords de l'île Sainte-Hélène, des files d'attente interminables pour s'acheter un gin à 18$ et un nombre incalculable de jeunes héritiers de la mode se prenant en selfie devant les berges. Trêve de blagounette, le Journal de Montréal nous rappelait hier les véritables têtes d'affiche de ce festival. L'orchestre Taco Bar, le rappeur Station de Pâtes Fraîches, le collectif Déjeuner All Day, ainsi qu'un barbecue de 20 pieds ou marine, côte levée et saumon fumé. Ah non, ça c'est les repas qui sont préparés pour les artistes qui seront présents. Parce que dans ce festival, la musique joue un peu le même rôle que la couronne de fleurs sur la tête des jeunes festivalières, c'est-à-dire celui d'accessoires. Trêve de blagounette, pour vrai cette fois, parce que le festival reste, oui, un incontournable pour entendre de la bonne musique, quel que soit son genre préféré. Même moi, dont la carrière de festivalier est bien peu prolifique, je m'y suis risqué à deux reprises dans ma vie. Il faut dire qu'en matière d'accessibilité en fauteuil roulant, Oshiaga fait déjà mieux que, mettons, Woodstock en bouette ou Montebello. Ouais. Surtout que le parc s'est refait une beauté récemment avec des trajets sur surface plane, bien agréables pour éviter le gazon et la gravelle. Mais il reste qu'il faut toujours bien se rendre, nos têtes sur place. En fauteuil roulant, sur cette maudite île-là, prenez votre bâton du pèlerin parce que même en partant de Montréal, ce sera pas facile de parcourir les 3,3 km vous séparant du Saint-Graal de la musique indie. Bien sûr, si vous avez un auto, c'est plus facile. Sauf que vous devez arriver tôt parce qu'il y a à peu près 12 places de stationnement réservées sur toute l'île. Je l'ai appris à mes dépens l'année dernière. Mais si vous n'avez pas de véhicule ou si vous n'avez pas envie d'attendre d'arriver 12 heures à l'avance puis pouvoir ôter au soleil, vous avez aussi l'option d'y aller en roulant. Mais traverser le pont Jacques-Cartier, naviguer les courbes à l'entrée de l'île, franchir tous les sentiers pédestres en zigzagant les cyclistes, c'est quand même tout un marathon. Vous pouvez donc prendre le transport en commun, mais la STM ne propose pas de navette spéciale pour se rendre sur place et vous suggère d'emprunter le métro, ah ben oui, ça a du bon sens, la station Jean-Drapeau, sauf que malheureusement, petit bémol, on devine, elle est inaccessible. Donc il y a bien sûr quelques bus qui font le trajet habituel pour les usagers en fauteuil roulant entre l'île de Montréal et l'île Sainte-Hélène, mais rappelons que les chauffeurs de bus ont une drôle de politique interne qui leur permet de refuser l'embarcation à toute personne en fauteuil roulant s'ils jugent que leur bus est déjà trop plein. Attendez le prochain, puis le prochain, puis le prochain, puis commencez à vous trouver un petit coin tranquille ou pique-niquer, ou bien alors piquer une tente aux abords de la biosphère si vous devez y passer la nuit. Tout n'est toutefois pas perdu. La STM prévoit doter la station Jean-Drapeau de cette fameuse technologie dont elle a si souvent entendu parler, l'ascenseur, d'ici l'automne 2019. Malheureusement, cet ascenseur sera un cul-de-sac symbolique pour les usagers en fauteuil roulant. Une fois à l'intérieur de la ligne jaune, vous ne pourrez pas en sortir, car aucune autre station de cette ligne est dotée d'ascenseur, ni à Longueuil, ni à Montréal. Vous voilà pris dans les limbes pour l'éternité, les limbes de la ligne jaune et de l'île Sainte-Hélène. Pas le choix, donc, rebroussez chemin, revenez en terre sainte de la musique folk rock, là où vous devez élire domicile à tout jamais. Informez-vous du coût des loyers du côté de Habitat 67, trouvez-vous une jobine de croupier au casino, ouvrez-vous un compte Instagram et imitez ces influenceurs qui ne font de leur vie qu'une attente perpétuelle du prochain Oshiaga ou se mettre en valeur. C'était mon comment survivre à Oshiaga en fauteuil roulant.
J'ai hâte.
Chocolat, gomme, barre de peanuts. Motus, motus, motus et bouche cousue. Je te tiens par la barbichette. Tant pis si tu n'as pas dit ton dernier mot. Chut, 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 shut up. Boucle la paille sur mute. Ne parle plus.
Une lance, deux lances, trois lances, quatre lances, cinq lances, silence. Si, silence radio. Mais cette nuit, tous les enfants du monde chanteront à l'unisson par leurs fenêtres et à tue-tête. Ça va faire boum, 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 un tic à boum. Matisse, c'est push, push, chit, shut up, bouclez la face sur nous. Ça va faire boum, 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 chica, boum, boum, chica, wagga, chica, wagga, chica, boum, boum, chica, wag, chica, wag, chica, boum. Oh yeah, encore plus fort. Ça va faire boum, 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 chica, boum, boum, chica, wagga, chica, wagga, chica, boum. Boom, chicka, whack, chicka, whack, chicka, boom.
On vient d'entendre Jérôme 50 avec la chanson Boom Chick Boom, la chanson qui a été tirée de son nouvel album Camp de vacances version moniteur, parce que Jérôme 50 a sorti deux versions de cet album Camp de vacances. Il y a une version moniteur et il y a une version campeur. La version campeur est plus ou moins la même avec trois chansons en moins, mais on y retrouve des classiques du bivouac du camp de vacances. Je sais pas, Kevin, si t'as déjà été dans un camp de vacances, qu'il soit quotidien ou séjour...
Non, non, malheureusement non, mais ma blonde a été longtemps monitrice, donc je connais pas mal les chansons à clamer haut et fort dans le fond de l'autobus jusqu'à ce que le chauffeur perde patience.
J'ai été campeuse au camp Cité-Joie qui se retrouve sur la rive sud de Québec, qui est un camp pour personnes en fauteuil roulant. Je me suis ramassée là à 10 ans et j'ai appelé ma mère une heure plus tard, je voulais m'en aller. J'y ai fait à croire qu'il m'avait pas fait de lit. Fait que ma mère a appelé la direction, c'était pas vrai pantoute. Mais... et finalement, il y a un jeune moniteur de 18 ans que je trouvais assez cute qui est venu me consoler en me disant que lui aussi avait déjà eu de la peine parce qu'il avait perdu son chat. Je salue Jean-Roch d'ailleurs qui est devenu mon tatoueur mon 10 ans Dieu. Plus tard. Hein? Ah non, écoute, tout est dans tout. Je te le dis, tout est dans tout. Et finalement, tout ça pour dire que j'ai tellement aimé mon expérience, j'ai tellement créé des liens exceptionnels. C'était un camp qui durait 10 ou 14 jours. J'étais là 7 ans de temps. Je me suis rendue jusqu'à mes 16 ans à y aller. Effectivement.
T'aurais pu devenir monitrice là? Est-ce que ça dépassait par la tête?
Non, pas tout. Non, j'étais rendue à un âge où j'étais un peu blasée de la vie. Mais n'en demeure pas moins que Jérôme 50 a sorti cet album-là avec des classiques comme « Oh, Ursule ». Maurice, on en a-tu un petit bout?
Oh, Ursule. Pour toi d'amour, mon cœur brûle. Comme j'aime quand tu déposes ton sourire.
C'est le Oh, Ursule. Ça, c'est vraiment un classique. Il y en aura d'autres que je garderai peut-être pour un petit peu plus tard dans d'autres. Aime l'été parce que c'est déjà tout pour nous cette semaine. Mais Kevin, merci de ta présence comme d'habitude.
Merci à toi, Manu. Merci à Maurice Bolduc, à nos recherchistes Catherine et Claire et à Louis Garon. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi.
Vendredi, absolument, mais lundi, l'équipe est encore
ben
à 11h30.
Mais nous, ce sera vendredi.
Hey, bon week-end, tout le monde. Bon Ashiaga, bon tout ce que vous voulez.